Comme vous le savez, on poursuit notre thématique dans l'Évangile de Jean et, comme vous le savez sûrement rendu là au courant de la thématique, cet Évangile relate des choses qu'on trouve pas dans les autres, dans les trois autres Évangiles, dont plusieurs rencontres personnelles que Jésus va avoir avec certaines personnes, dont la Samaritaine, Nicodème. C'est des rencontres qu'on a déjà abordées ensemble dans les dernières semaines, mais aussi c'est le cas du chapitre 21, le dernier chapitre de l'Évangile de Jean, où Jésus va avoir une belle discussion avec l'apôtre Pierre sur le bord d'un lac avec aussi quelques autres disciples. Et l'apôtre Pierre, c'est ça, juste avant la crucifixion de Jésus, vous vous rappelez, on se rappelle souvent de son échec, en fait, à l'apôtre Pierre, parce qu'il a renié trois fois Jésus, en fait. Il a renié qu'il était son disciple. Et c'est à partir de cette conversation du chapitre 21 que j'aimerais que nous puissions découvrir ou redécouvrir le pardon de Jésus, sa restauration dans nos vies, quand il nous arrive de faire des erreurs ou de vivre des échecs. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment surmonter l'échec ». Comment surmonter l'échec. Si tu as déjà fait des erreurs dans ta vie, s'il te plaît, lève ta main. Si tu es un être humain, c'est sûr. T'es mieux de lever la main, Denis. Si t'es un être humain, c'est clair que tu devrais avoir la main levée. Et il y a toutes sortes d'erreurs, hein. Il y a des petites, des graves, des moins graves, des erreurs fatales, des gaffes monumentales, des erreurs de parcours, des erreurs d'inattention. Il y a des erreurs dramatiques comme la négligence de ne pas bien serrer les freins d'un train qui a causé la tragédie du lac Mégantic, qui a causé la mort de 47 personnes. Il y a des erreurs coûteuses, OK? Cette erreur, une faute de frappe, en fait, une erreur typographique à la bourse qui a coûté 225 millions de dollars à une compagnie japonaise. Le 8 décembre 2005, à la bourse de Tokyo, il y a une compagnie qui a émis une commande mentionnant l'achat de 610 000 actions pour 1 yen par action, alors qu'elle avait l'intention d'offrir un seul titre pour 610 000 yens. Okay? Donc, entre 1 et 610 000, il y a une pas pire marge. Okay? La marge est assez grande. La marge d'erreur est assez grande. Il y a d'autres erreurs moins graves, quoique ça dépend, d'envoyer un texto au mauvais destinataire. Peut-être que c'est le bon message, mais si c'est pas le bon destinataire, ça marche pas. On peut se tromper de marque de dentifrice, de couleur, de peinture, de programme d'études, de réponse à un examen. On peut faire une erreur en disant une parole qu'on n'aurait pas dû dire ou un geste qu'on n'aurait pas dû poser. Il y a une panoplie d'erreurs possibles, si bien que c'est Saint-Augustin qui a dit cette fameuse phrase, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Parce que tout le monde fait des erreurs. Et la première étape pour arriver à surmonter un échec, c'est d'accepter que tu vas faire des erreurs. C'est inévitable. Et c'est difficile pour les perfectionnistes d'entre nous d'accepter ceci. Mais si tu intègres cette vérité, tu vas découvrir à quel point cette vérité, elle est libératrice. Tu ne pourras pas toujours faire tout parfaitement dans la vie. Est-ce que je peux entendre un « Amen » Qu'elle soit grave ou moins grave, tout le monde fait des erreurs et sera confronté à un moment ou un autre à l'échec dans sa vie. Mais ce matin, mon objectif, c'est de répondre à la question « Comment surmonter ces échecs ?» C'est pas parce que tout le monde fait des erreurs que c'est agréable de faire des erreurs, vous êtes d'accord avec moi? Personne n'aime faire des erreurs, personne n'aime vivre avec les conséquences de ces erreurs. Alors, c'est important de savoir comment s'en sortir quand on est assailli par toutes sortes d'émotions négatives à cause de nos erreurs ou nos échecs. Encore une fois, la réponse va se trouver auprès de Jésus. Comment surmonter l'échec? En allant à la rencontre de Jésus ressuscité, pour qu'il renouvelle son pardon et son appel, comme il l'a fait avec l'apôtre Pierre. Comme toi et moi, Pierre a eu ses bons et ses moins bons coups. Il était un des disciples les plus proches de Jésus, donc ça, c'est un bon coup, avec Jean, justement, qui écrit l'Évangile. Il a été le premier à prêcher vraiment avec assurance après la Pentecôte, dans le livre des Actes. C'est à lui aussi spécifiquement qu'on voit que Jésus va donner la mission d'être vraiment un leader important pour bâtir son Église après son départ. C'est lui qui a déclaré aussi ces paroles qui constituent vraiment un pivot en Jean 6, 67. À la question de Jésus à ses disciples, « Et vous, vous ne voulez pas vous aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous, nous avons cru, nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Un bon coup, Pierre. Et dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, on voit vraiment toute cette dualité avec les bons et les moins bons coups de Pierre. Jésus demande aux disciples, « Et d'après vous, qui je suis? » C'est le verset parallèle par rapport à ce qu'on vient de lire dans Jean 6. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce que tu liras sur terre aura été lié au ciel et ce que tu déliras sur terre aura été délié au ciel. Un très bon coup pour Pierre ici. Mais regardez la suite, verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Un moins bon coup ici. En quelques versets seulement, Pierre passe d'une parole inspirée de Dieu. C'est Jésus qui dit ça, mais à des paroles inspirées par l'ennemi qui empêcherait Jésus d'accomplir sa mission à la croix. C'est Pierre aussi qui, une minute, va avoir le courage et la foi d'aller rejoindre Jésus qui marche sur l'eau. Wow! Mais tout de suite après, il va être effrayé, il va commencer à s'enfoncer et Jésus va lui dire, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Comme toi et moi, Pierre a fait des choses magnifiques pour Jésus, mais il a aussi fait des erreurs, comme on voit ici. Mais voici celle qui est le plus mise en évidence, selon moi, par l'apôtre Jean dans son évangile, alors que Pierre va déclarer qu'il est prêt à mourir pour Jésus. Il va finalement le renier trois fois, quand Jésus va être arrêté pour être crucifié. Et on lit ce passage en Jean 18, 15 à 27. Le passage où Simon-Pierre va renier Jésus. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Le disciple qui l'accompagne, c'est Jean ici. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme? » Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en fais pas partie. » Deuxième reniement. Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta, parce que vous savez que Jésus avait prophétisé qu'il le renierait avant que le coq chantait. Et c'est avec ce passage en tête qu'on doit lire le chapitre 21, notre texte d'étude aujourd'hui, où nous voyons Jésus relever Pierre après cet échec. Ça se passe après la résurrection de Jésus, alors qu'il est déjà apparu deux fois à ses disciples. Et Jésus va dire aux disciples de le rejoindre en Galilée, et c'est là que se situe notre chapitre 21. À partir de ce texte, nous allons découvrir que Jésus renouvelle, comme j'ai dit, son pardon et son appel pour Pierre, mais pour toi aussi, pour toi et moi. Prions ensemble que l'Esprit travaille dans nos cœurs. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi, nous voulons Nous voulons s'incliner devant toi, Seigneur. Parle-nous par ta parole. Seigneur, je te prie pour une matinée de pardon, que nous allons pardonner notre prochain et qu'on va recevoir aussi ton pardon, Seigneur. Une matinée de résurrection, Seigneur, par la puissance de ta résurrection, Seigneur. Viens faire ton œuvre ce matin dans nos cœurs. Amen. Notre texte principal, comme je l'ai dit, le chapitre 21 de l'Évangile de Jean, fait écho à deux autres textes. Le premier passage qui est parallèle, c'est celui du reniement de Pierre qu'on vient de lire ensemble. Alors, ayez-le en tête alors que je vais lire le début du chapitre 21. Comme les dernières fois où j'ai des plus grandes portions de texte, je vous conseille de vous concentrer sur ma voix, parce qu'il n'affichera pas à l'écran. Donc, concentrez-vous, essayez de voir la scène dans votre tête, ça nous aide à imaginer le tout. Jean 21, 1 à 22. Je vais prendre une gorgée d'eau avant de partir. C'est pas si long que ça, là. Inquiétez-vous pas. Après cela, Jésus se montra, on est après la résurrection, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». C'était des pêcheurs. Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque, en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise, avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons. On est très précis ici. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez et mangez ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » On va regarder ensemble un petit tableau. Okay? Je veux vraiment qu'on fasse ressortir ça. Ça va nous faire ressortir des vérités vraiment magnifiques. Un tableau comparatif entre ces deux passages. Okay? Regardez à quel point c'est merveilleux. On voit déjà qu'au verset 18 dans Jean 18, les serviteurs, lors du reniement de Pierre, se trouvent autour de quoi? Un feu de braise, tout comme Jésus le faisait. Au verset 9 dans Jean 21, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise. Et par la suite, on voit qu'au verset 7, la servante qui gardait la porte dit, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme? » « Je n'en fais pas partie. » Premier reniement de Pierre. Et Jésus, au verset 15, va dire, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Deuxième reniement, au verset 25, et on voit encore une fois Jésus qui va lui dire une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Troisième reniement et troisième question de Jésus, « Est-ce que tu m'aimes, Simon-Pierre? » « Oui, Jésus, j'ai de l'amour pour toi. » Qu'est-ce que Jésus fait ici après l'erreur de Pierre? Il renouvelle son pardon. Et c'est mon premier point ce matin. Ce que Jésus fait ici, c'est d'inviter Pierre et ses disciples à manger pour avoir ensuite une discussion avec Pierre, un moment privilégié avec lui. Et par trois fois, Pierre a renié Jésus en répondant à cette question à ces personnes. Mais par trois fois, Jésus lui offre la possibilité de lui prouver son amour. C'est comme si Jésus lui disait, « Je suis capable de te pardonner encore et encore et encore. Je suis capable de renouveler mon pardon envers toi. » Il n'y a pas de date d'expiration ou de nombre maximal de pardon que Jésus veut t'offrir. Et ça va pour tout le courant de ta vie, OK? Un jour, Pierre a demandé à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serais-je jusqu'à 7 fois? » Moi, Pierre, il voulait se penser quand même peut-être un peu bon de dire, « Moi, je suis prêt à pardonner 7 fois. » Mais Jésus va dire, non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. Ceux qui sont bons en maths, ça fait combien? Ah, vous êtes bon, pas peur, 490, je l'ai même noté ici pour au cas. Vous comprendrez que Jésus ne dit pas à Pierre de pardonner son prochain 490 fois et de le condamner la 491e, voilà. On s'entend, vous êtes d'accord avec moi, on comprend le principe ici. Et le chiffre 7, en fait, dans la Bible, symbolise la perfection de Dieu. Ici, Jésus veut enseigner ses disciples à pardonner comme lui pardonne, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a besoin d'être pardonné. Et si on a besoin d'être pardonné, on a besoin de pardonner en retour, hein? C'est ça aussi l'idée. Certains sont découragés de vivre encore et encore les mêmes combats, de manquer la cible encore et encore. Mais si Jésus a pardonné Pierre pour ses 3 reniements, il l'aurait pardonné pour 4. Si tu pèches 10 fois, Jésus va te pardonner 10 fois. La culpabilité que tu ressens ne doit pas t'éloigner de Jésus, mais te rapprocher de lui. Dans sa lettre, Jean dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Tu peux être assuré que Jésus va toujours pardonner tes péchés. Amen. Et honnêtement, je le dis, et je trouve ça injuste. On s'entend? On ne mérite pas d'être pardonné 7 fois, 70 fois. Et à l'infini. OK, à un moment donné, vas-tu comprendre puis arrêter? On s'entend-tu? Vous êtes d'accord avec moi? Mais non, justement, Dieu nous pardonne encore et encore parce qu'il est gracieux. C'est ça, la grâce de Dieu. Il nous offre son pardon et sa bénédiction alors que nous ne le méritons pas. Et ça ne veut pas dire pour autant de prendre pour acquis son pardon en péchant systématiquement et intentionnellement. Jean poursuit en disant, « Mes petits-enfants, OK, oui, je vous ai dit que Jésus pardonnait. Mais mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Saint Augustin a dit « L'erreur est humaine », mais savez-vous qu'il y a une suite à cette phrase-là? Est-ce qu'il y en a qui savaient? Ah, c'est beau. On va le rajouter après. Yolande. « L'erreur est humaine. Persévérer dans l'erreur est diabolique. » En d'autres termes, oui, tu dois accepter que tu vas faire des erreurs. C'est le premier point qui est vraiment important. Mais ce n'est pas une excuse pour persévérer sur ce chemin. J'ai de la misère avec mes cheveux. Comment surmonter l'échec? C'est en entrant dans ce cycle de la nature humaine. Premièrement, accepter que je vais faire des erreurs. Deuxièmement, accepter de ne pas persévérer sur ce chemin. Mais troisièmement, accepter le pardon de Jésus, parce que je vais en avoir besoin. Accepter que je vais faire des erreurs, accepter quand même de ne pas persévérer sur ce chemin et accepter le pardon de Jésus. Qui a déjà eu des impressions de déjà-vu? Des impressions de déjà-vu, tu es en train de vivre un moment puis tu te dis « Ah, voyons donc, j'ai l'impression d'avoir vécu exactement cette situation-là. » Avouez à quel point c'est étrange. Il y a une première hypothèse qui a été faite par les scientifiques et c'était que, en fait, il y a un délai entre ce que ton œil perçoit et ton cerveau, finalement, qui enregistre l'information. Il y aurait comme un délai. Pourtant, ils se sont dit, ouais, mais en même temps, il y a des situations complexes où c'est pas juste nos yeux qui perçoivent la situation, mais des odeurs, toutes sortes de choses. Donc, ah non, ça fonctionne pas. Donc, ils ont trouvé une autre hypothèse, en fait. En fait, c'est qu'il y aurait vraiment un problème au niveau de la mémoire. C'est vraiment lié à la mémoire. Normalement, tu vis une expérience, puis elle est entreposée par la suite dans ta mémoire, à long terme. Sans qu'on sache pourquoi, à certains moments, il peut y avoir comme des petites interférences. Et ça devient un souvenir. Ce que tu es en train de vivre devient un souvenir avant d'avoir été consciemment vécu. C'est un peu comme ça qu'il essaie d'expliquer cette impression de déjà-vu. Comme si le moment passait directement dans la mémoire à long terme. Et je sais que plusieurs se sentent comme ça. Quand tu refais la même erreur, quand tu vis un échec, quand tu retombes dans un péché, la seule chose que tu vois, c'est une impression de déjà-vu. Et avec ça, un découragement. Comme si ton erreur prenait tellement de place dans ta mémoire à long terme que tu la laissais te définir. J'ai toujours été comme ça. Ça a toujours été ça, mon passé. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu dois apprendre à accepter comment Dieu, lui, mémorise ta vie. Pour Dieu, c'est l'inverse. Quand tu pêches, il n'a pas cette impression de déjà-vu. Bon, encore lui ou encore elle? Non. Non. Isaïe 43, 25 nous dit, c'est moi. Moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, à cause de sa grâce, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Hébreux 10, 12, 17 nous dit, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, une fois pour toutes, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, et là il cite, l'auteur aux Hébreux cite l'Ancien Testament, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute l'Esprit Saint quand il dit ça, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Est-ce qu'on peut applaudir la grâce de Dieu pour nous? À cause du sacrifice de Jésus accompli une fois pour toutes, pour le pardon de l'humanité, Dieu oublie nos fautes. Dieu n'a pas cette impression de déjà-vu. Quelle grâce! Il ne tient pas le bilan de tes échecs devant ses yeux en tout temps. Non, il choisit de ne pas se rappeler tes péchés et tes erreurs pour t'accorder le pardon à cause du sacrifice de Christ à la croix. Dieu te pardonne encore et encore et encore. Comment on le chantait? Il te dit juste, viens vers moi, mon enfant. Mon deuxième et dernier point aujourd'hui, c'est que non seulement Jésus renouvelle son pardon, mais il renouvelle aussi son appel. J'ai dit en commençant le message que le chapitre 21 faisait écho à deux autres textes. Et le premier, comme on l'a vu, hein, avec les trois reniements et les trois questions de Jésus, « Est-ce que tu m'aimes? » à Pierre. C'était ce texte-là dans Jean, mais là, on va aller dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, qui raconte justement quand est-ce que Pierre est devenu un disciple de Jésus. C'est l'appel à devenir disciple de Pierre et de d'autres. Donc, lisons ce passage-là en ayant toujours en tête l'épisode où Jésus rencontre ses disciples du lac après la résurrection. Okay? Donc, on veut avoir le chapitre 21 de Jean qu'on a lu ensemble, que je vous ai lu. Et ce passage-là que je vais lire dans Luc 5, qui apparaîtra pas à l'écran. Regardez toutes les parallèles, il y en a encore plus que dans l'autre. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leur pichet. Leur filet. Ils prenaient un petit drink, un petit cocktail. Non, leur filet, c'est des pêcheurs, ma foi. Bon, verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Ah, on voit Simon ici. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait à la foule. Donc Jésus emprunte le bateau de Simon finalement et commence à enseigner dedans. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est peu profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, au genou de Jésus, et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Vous avez peut-être vu des beaux parallèles ici dans les deux textes. OK, premièrement, on va ressortir un beau petit tableau. C'est trop beau ce qu'on peut faire ressortir avec ça. Premièrement, ils se retrouvent au lac de Génézareth. Et vous voyez ici qu'ils sont au lac de Tibériade. C'est le même lac, en fait. C'est deux façons d'appeler la mer de Galilée. Donc, ils sont exactement à la même place. Quand Jésus appelle Pierre à le suivre et quand il retrouve après son échec, après sa résurrection, il se retrouve à la même place. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Même chose dans Jean 21. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au verset 4, « Jetez vos filets pour pêcher. » Il leur dit, « Jetez vos filets pour pêcher. » C'est Jésus qui dit ça aux disciples. Ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Même chose de l'autre côté dans Jean 21. Et leur filet se déchirait, c'est nommé, et dans l'autre, leur filet ne se déchirait pas. Les deux filets sont nommés ici. Jésus, l'ayant regardé, il dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. » Tu serais appelé Céphas. Encore une fois, Jésus va l'appeler Simon, fils de Jonas, les trois fois. Ils laissèrent tout et le suivirent. Et dans Jean 21, Jésus va dire à Pierre, après sa discussion, « Suis-moi, suis-moi. » Jésus aurait fait vivre pratiquement, lui, en tout cas, Pierre a eu une impression de déjà-vu à ce moment-là. La même scène après, à Pierre et à quelques disciples. Par ce miracle et sa discussion avec Pierre, c'est comme si Jésus renouvelait son appel en tant que disciple. Malgré son erreur de parcours, Jésus renouvelle l'appel de Pierre. Malgré le fait que Pierre l'ait renié trois fois qu'il était son disciple, Jésus renouvelle son appel à être un disciple trois fois. Ce qui est incroyable, c'est que Jésus connaissait parfaitement la nature pécheresse de Pierre. Au verset 8, Pierre se sentait tellement indigne après ce grand miracle. Il se sentait tellement pas à la hauteur qu'il lui a dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Et Jésus n'a pas répondu, « Ben non, Pierre, t'es bon, t'es fin, t'es capable. Ah ouais, let's go! » Non. Il lui a dit, « N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu seras désormais pécheur d'hommes. » Malgré sa nature que Jésus connaissait, il l'a appelé à être son disciple. Jésus te dit, « N'aie pas peur. N'aie pas peur de faire des erreurs. » N'aie pas peur de ne pas être à la hauteur, parce que tu vas faire des erreurs et parce que tu n'es pas à la hauteur. C'est pour ça qu'il faut suivre Jésus. C'est pour ça. Ta nature ne doit pas t'éloigner de Jésus, mais te pousser à le suivre. Notre Sauveur qui est parfait. notre plus grand modèle. Et alors que dans Jean 21, Jésus a renouvelé son pardon 3 fois pour contrer les 3 reniements de Pierre, en même temps, Jésus renouvelle son appel 3 fois. Vous avez remarqué qu'il dit à chaque fois que Jésus dit « Est-ce que tu m'aimes, Pierre? » Et il va dire « Oui. » Mais après, Jésus lui répond toujours « Nourris mes agneaux. » Nourris mes agneaux. Et plus loin, « Est-ce que tu m'aimes, Pierre? » « Oui, je t'aime. » « Prends soin de mes brebis. » Et une 3e fois encore, « Est-ce que tu m'aimes, Pierre? » « Oui, je t'aime, Jésus. » « Nourris mes brebis. » Jésus a établi Pierre comme berger, un pasteur, un leader principal de la première Église, un homme qu'il a régné 3 fois en disant qu'il n'était pas son disciple. Quelle grâce! J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre en avant. Quand on rédige un CV, un curriculum vitae, pour trouver un emploi, on s'arrange pour écrire des belles choses sur nous. Vous êtes d'accord avec moi? Certains vont même embellir, donc écrire des belles choses embellies. Faut quand même pas exagérer. Du genre, j'ai réussi avec brio mon programme universitaire. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de la restauration. J'ai de bonnes connaissances en informatique. J'ai eu le privilège d'œuvrer pendant plusieurs années dans un organisme en tant que bénévole. Je suis parfaitement bilingue. Je suis très positive et toujours ponctuelle. Et tant qu'à être dans nos tableaux comparatifs, on peut aller à notre tableau ici. Mais Jésus, ce que lui il voit sur ton CV, OK, c'est ceci. J'ai réussi mon programme universitaire à cause du café. J'ai beaucoup d'expérience pour commander au restaurant. Je connais bien Facebook et Instagram. J'ai fait du bénévolat parce que j'étais obligée par mon programme. Je parle 2 langues, le français et mon langage d'amour, c'est les cadeaux. Je suis positive et quand j'ai envie et ponctuelle si je suis motivée. OK, voici ce que Jésus lit sur ton CV parce qu'il te connaît. OK, on peut pas en passer des petites vites à Jésus. Ben non, Jésus te connaît. Mais même si Jésus connaît ta vraie nature, ton vrai CD sans embellissement, il veut t'engager pour que tu parles de lui autour de toi. Il t'engage pour que tu serves dans l'Église. Il t'engage pour que tu sois une lumière dans ce monde. Il t'engage pour que tu lui ressembles. Il t'engage pour faire de toutes les nations des disciples. Il t'engage pour faire une différence autour de toi. Et je vais terminer avec cette dernière pensée. On a vu que la peur de faire des erreurs, la honte de l'échec, la culpabilité, tout ça, ça peut nous éloigner de Jésus au lieu de nous rapprocher de lui. Mais une des choses aussi qui peut t'empêcher d'entrer dans l'appel que Jésus a placé sur ta vie, c'est la comparaison. En Jean 21:20, quand Jésus a dit à Pierre, « Suis-moi », voici quelle a été la réaction de Pierre. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. Et ça, c'est Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir? » En le voyant, en voyant Jean, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Et Jésus va lui répondre, « En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » L'échec dans ta vie t'amène peut-être à te comparer aux autres. Tu te compares peut-être à d'autres chrétiens autour de toi qui semblent avoir un meilleur CV. Tu te compares peut-être à celui qui semble être le chouchou de Jésus, le disciple que Jésus aimait. Mais Jésus te dit, qu'importe, toi, suis-moi. Qu'importe, toi, suis-moi. À chacun son appel, à chacun ses dons, ses talents. Dieu veut même se servir de ton passé, de tes erreurs et de tes échecs pour te façonner de plus en plus à la ressemblance de Christ. Il veut se servir de ça. Dieu change le mal en bien. Il change les échecs en victoire. Amen. Par la puissance de sa résurrection. Et je veux qu'on fasse quelque chose qu'on fait pas souvent. J'aimerais ça qu'on on réponde à cet appel. On répond à cet appel simplement de Jésus. Cet appel qui dit « Toi, suis-moi ». Malgré tes échecs, malgré tout ce que tu vois autour de toi, la comparaison peut-être, malgré ton passé, malgré ton découragement, je veux t'inviter à dire oui, moi je veux te suivre Jésus, à jeter tes filets et à suivre Jésus. Et ce qu'on va faire, c'est que si tu veux répondre à cet appel par un signe d'obéissance, par un signe physique finalement, je veux t'appeler à venir à l'avant et chanter ce chant comme une prière. Ces paroles sont juste incroyables et c'est vraiment un chant pour aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment on a pu... Pourquoi est-ce qu'on chante ce chant-là aujourd'hui? Vraiment, Dieu veut nous parler ce matin dans ce chant-là. Donc, levons-nous. Et ceux qui sont prêts à répondre à cet appel, à dire « Oui, Jésus! » Tous ceux qui veulent dire « Oui, Jésus, moi, je veux te suivre. » Venez en avant, prenez toute la place sur le devant. On peut faire deux belles rangées ici. Chantons ce chant comme une prière. Dire « Oui, je viens avec mes échecs. Je viens avec ma nature humaine. » Mais il nous accepte, il faut juste qu'on vienne à lui. Il faut juste qu'on dise « Oui, Seigneur, je viens à toi. » Chantons ensemble.